marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Alors je vais appeler nos ingénieurs du Centre d'exploration du temps. Allô, au Centre d'exploration du temps, me recevez-vous ?
Une autre histoire de Renault, sa collection d'art.
Jamais eu une voiture dans ma vie, c'est quand même le permis de conduire, je conduisais avant. Une fois que j'ai eu le permis de conduire, je n'ai jamais conduit une voiture. Et je regarde les voitures, ils m'avaient amené à Flins pour me montrer la Renault 5 avant qu'elle est sortie. Alors j'avais des photos de cette voiture, future voiture, tu vois, c'était formidable ça. Moi j'adore, c'est des commandes libres. Ça veut dire que, hein, on te laisse toute liberté, on te commande, on dit voilà, si vous voulez travailler pour nous, nous intéresser plus dans les grands tableaux, il n'y avait presque pas de limite.
Héros, qu'on vient d'entendre, n'a jamais eu vraiment d'auto. Armand tenait à en avoir plusieurs. Tous deux, et bien d'autres, Vasarely, Paul Burry, Soto, etc., ont été invité à travailler chez Renault. Armand observait fasciné la magie convergente de la chaîne. Robert Rauschenberg rêvait d'une voiture transparente. Nicolas Schoeffer créa une sculpture qui cherchait à rouler. Alors aujourd'hui, on imagine les fondations d'entreprises seulement sous la forme de collections, fondées sur des achats. La démarche de la régie Renault, dès la fin des années 1960, était tout autre. Elle ouvrait ses ateliers aux artistes afin que leur production soit inspirée par l'automobile. Et elle ne craignait pas de se regarder au miroir déconcertant, critique, sarcastique, qu'il lui tendait. Vasarely redessinait le losange, Armand faisait d'une culasse découpée une accumulation, et Renault laissait faire. Elle a juste mis un frein aux ardeurs de César quand il proposa une compression de toute la gamme des modèles alors en vente. C'est seulement au bout de plusieurs années que l'idée vint de choisir quelques pièces ainsi produites afin de constituer un ensemble dont il était promis aux artistes qu'il ne serait pas vendable. Un homme, Claude Renard, formé dans l'intimité de Malraux, fut le pionnier de cette aventure au long cours. Il avait convaincu Pierre Dreyfus, patron historique de la régie jusqu'en 1975, et il lui arriva de trouver l'appui de tel ou tel de ses successeurs. La collection, il faut le dire, connut des fortunes diverses. Remise en ordre dans les années 1990, elle a gardé assez de puissance d'attraction pour faire l'objet d'une exposition au Japon. Tiens, au Japon, le rapprochement avec Nissan. On devine cependant que ce qu'incarnait cette collection a peu à voir avec le mécénat tel que le pratiqua Carlos Ghosn. Ni Claude Renard, ni les présidents de son époque n'auraient vu de cohérence entre l'activité automobile et les restaurations d'un salon de Versailles. Ils n'auraient pas sans doute pensé non plus aux avantages en nature.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Anne-Cécile Sanchez, qui est journaliste indépendante, mais qui est un pilier du Journal des Arts, quinzomadaire, un article sur le devenir de la collection Renault dans le numéro du 1er mars, et pilier aussi de L'Œil, un article dans le numéro de février consacré à la collection Renault. Anne-Cécile Sanchez, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Il y a quelqu'un qu'on aurait aimé rencontrer, l'un et l'autre, c'est Claude Renard, l'homme lige dans cette affaire. Alors vous m'avez dit, il a des relations jeunes avec Malraux, parce que la famille Renard, un peu ruinée, loue le premier étage de l'hôtel particulier de Boulogne déjà, mais le nord de Boulogne, pas Billancourt, à André Malraux. Et le petit Renard ?
Et lui, il habite au rez-de-chaussée avec sa femme Micheline Renard et leur fille Delphine Renard.
Et Malraux les appelle les Renardos parce qu'ils vont souvent le voir. Et ils sont fascinés par sa parole sur l'art.
Bien sûr, sans doute Claude Renard doit-il une partie de son intérêt pour l'art à Malraux, avec lequel il a de longues discussions sur ce sujet. Ils sont effectivement relativement proches à cette époque-là.
Oui, parce que mars 1962, attentat de l'OAS, les contemporains s'en souviennent, c'est la petite fille de Claude et de Micheline Renard, Delphine, 4 ans et demi, qui est gravement blessée, défigurée, qui perd un œil. Il n'est pas sûr qu'André Malraux ait été parfait dans ces circonstances et se soit beaucoup enquis de la santé de la petite Delphine, qu'on retrouve beaucoup plus tard, psychanalyste, témoignant de cette époque et de l'affection, de la proximité que le patron de Renault, Pierre Dreyfus, avait vis-à-vis de la famille Renard.
Je me suis réveillée à l'hôpital où on m'a expliqué qu'il y avait eu une explosion, que j'avais eu beaucoup d'éclats de verre et de métal dans la figure et que j'avais perdu un œil, qu'on avait été obligé de m'enlever un œil parce que l'autre risquait d'être contaminé. Mes parents ont été très aidés par des gens formidables comme le patron de mon père à l'époque à la régie Renault qui était Pierre Dreyfus qui nous a offert le voyage sur le France parce que je n'avais pas le droit de prendre l'avion ayant un petit bout de verre dans l'œil qui risquait de bouger. Et pour moi, en fait, ça a été une grande chance de pouvoir vivre comme ça un an aux États-Unis. Je passais une semaine par mois à l'hôpital pour me faire opérer.
Et Claude Renard travaille pour le compte de Renault aux États-Unis et il fait des découvertes aux États-Unis les semaines où il n'accompagne pas sa fille à l'hôpital.
Oui, on peut dire que d'une certaine façon, cette circonstance dramatique, hein, le fait que Delphine Renard subisse des interventions chirurgicales aux États-Unis, est un des facteurs déclenchants qui va amener Claude Renard plus tard à créer le département art, recherche et industrie au sein de la régie Renault, puisque à New York, eh ben, Claude Renard, qui s'intéresse déjà à l'art, il va avoir le choc de l'art contemporain, qui est beaucoup plus développé qu'à Paris, bien sûr. Il va aussi s'intéresser à la philanthropie. Et lui qui imagine de rapprocher l'art et le monde du travail, ça va lui donner des idées.
Et il fait visiter les musées américains à Pierre Dreyfus, qui suit, de plus en plus intéressé et satisfait. Alors Pierre Dreyfus, c'est le patron historique depuis 1955 de la Régie nationale des usines Renault, RNUR, qui s'installe dans un nouveau siège social à Bébé, Boulogne-Billancourt.
Monsieur Dreyfus, l'âge adulte est celui des bilans. La régie Renault a 25 ans aujourd'hui. Pouvez-vous nous faire un rapide bilan de ce quart d'échec d'activité ?
Bien, il y a 25 ans, quand la régie a été créée, 80% de ces usines étaient en ruine. Il a fallu les reconstruire. Il y avait 12 000 ouvriers. Maintenant, il y en a 85 000.
Un adulte en pleine santé. Monsieur Dreyfus, on a souvent dit sous forme de boutade que Brigitte Bardot rapportait à la France autant d'argent que la régie Renault. Qu'en est-il aujourd'hui ?
Je ne sais pas si cela a été vrai, encore que nous avons toujours été très flattés d'être comparés à une si charmante personne. Mais aujourd'hui, elle aurait fort à faire pour nous rattraper.
Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout. Son coffre est très grand et on y met tout dedans. Elle peut aussi coucher dehors du Sahara jusqu'au pôle Nord. Fais un tour en Renault 4, demande-lui beaucoup. Va partout en Renault 4, elle ira jusqu'au bout.
La forteresse ouvrière, comme disait à l'époque Jacques Frémontier, avait un rôle symbolique extrêmement important. La CGT qui contrôlait le comité d'entreprise avait une bibliothèque très ouverte, où parfois un certain nombre de livres cependant étaient censurés, et avait beaucoup plus tôt, dans les années 50, installé des œuvres de Fernand Léger, le peintre alors communiste, dans la cantine des ouvriers. Et Pierre Dreyfus, il est dans ce rapport de force aussi. Enfin, il s'intéresse à l'art parce qu'il a des adversaires politiques en face qui disent que la démocratie culturelle, c'est un enjeu premier.
Oui, et puis il est quand même à la tête d'une entreprise qui rayonne à l'international, qui est une entreprise pilote sur le plan technique, sur le plan social, sur le plan économique. Et donc, c'est un homme qui s'intéresse par ailleurs à Saint-Mélomane, il s'intéresse à l'archéologie, à la civilisation précolombienne. Et c'est un homme qui a un regard sur son temps aussi, et qui doit avoir un œil sur le futur. Et donc, quand il va donner son aval au projet Claude Renard, qui est un projet donc pour créer un département art, recherche et industrie au sein de la régie Renault, un département qui va inviter des artistes à collaborer avec l'entreprise. Il le fait avec un certain réalisme aussi, sans doute.
Ouais. Premier invité qui vient d'enthousiasme et qui va pratiquer l'accumulation dans les ateliers, c'est Armand.
Ma collaboration avec la régie Renault m'a apporté énormément. Au départ, il était juste question d'une pièce. Et en me faisant visiter, dans le fond, les chaînes de montage, d'autres appétits sont nés. Et ça a été très important pour moi. Je crois que je ne travaillerai plus de la même manière après cette étape. Alors ici, il s'agit d'une accumulation.
En combien de morceaux tu la coupes, cette culasse ?
Cinq.
Une culasse normale est coupée en cinq.
Oui, mais elle n'est pas coupée, d'habitude, une culasse. On l'a fait couper pour que j'ai justement... C'est une opération qui d'habitude se situe au stade de la recherche pour voir ce qu'il y a de défectueux dans l'injection de métal. Et moi j'ai vu ça dans les laboratoires, j'ai trouvé ça très chouette, alors je me suis fait couper.
Qu'est-ce que c'est comme métal ça?
C'est de la fonte ou de l'alu? De l'alu ça. Aluminium. Si, on faudrait une petite, oui, parce que sinon... Une comme ça ou une comme ça ici plutôt.
Il est à son affaire, hein. Il est dans une émission avec Pierre Restany en 1969.
Ah oui, on sent qu'il est
à la RTF.
C'est oui. Presque un ferrailleur.
Et à propos de ferrailleur Restany, qui est un critique qui se veut révolutionnaire, à l'époque, lui dit, mais tu collabores, t'es juste un révolté, t'as pas de vrai projet politique, tu viens travailler alors, chez les pilotes, les omliges de l'industrie.
Armand, il dit que ça a été pour lui un choc esthétique hein, de se retrouver chez Renault, que ça a été un magasin de couleurs, d'avoir à disposition toutes ces pièces industrielles avec lesquelles il rêvait de travailler, de faire ces fameuses accumulations. Et puis ça a été aussi, sur le plan plus de sa démarche d'artiste, une rencontre avec son envie de donner forme au fameux cycle production-consommation-destruction. Voilà, ça c'était son truc à Armand. Et avec Renault, il a trouvé là vraiment... Une opportunité formidable qui a aussi changé son...
La destruction créatrice d'art. Moi, je vous relance sur le thème politique. Il y a un artiste qui avait commencé à collaborer comme invité, c'est Jean-Pierre Reynaud. Quand il s'est agi de présenter la pièce qu'il avait produite, c'était avant les carreaux, avant les maisons, il était assez début. Il a fallu que les forces de l'ordre protègent l'exposition où il voulait, où il devait se
produire. Il s'agissait d'une
produire.
Exposition au Musée des Arts Décoratifs. Donc, qui présentait les pièces qu'avait produites Jean-Pierre Reynaud, invité par Claude Renard, par le département Art, Recherche et Industrie, à produire donc au sein de la régie Renault. Une exposition venait conclure cette collaboration. Et là, Reynaud, effectivement, a été pris à partie par le monde culturel qui lui demandait de choisir son camp, en quelque sorte. Est-ce qu'il était impliqué ou pas dans le système Renault ?
On peut citer quelques noms. Je ne sais pas combien d'artistes a commandité Claude Renard pour le compte de Renault ou personnellement, une bonne centaine, mais parmi les plus grands des invités de cette haute époque.
Ah ben, il y a eu, bon, donc on a dit Armand bien sûr, mais il y a eu Jean-Michel Sanejouan, il y a eu Jean Dewan, il y a eu Paul Burry, il y a eu Vasarely qui va même... composer un nouveau logo, d'ailleurs, pour Renault. Il y a eu Nicolas Schaeffer, il y a eu Rauschenberg, il y a eu Tinguely, bien sûr. Enfin,
avec de grandes pièces,
ouais, Tinguely. Des pièces monumentales, absolument.
Et puis, à propos de pièces monumentales, voici qu'arrive Jean Dubuffet. Alors voilà l'homme de l'émancipation, voilà l'homme de la rupture, celui qui combat l'asphyxiante culture dominée par les pouvoirs. Et qu'est-ce qu'il lui prend? Il est séduit par Claude Renard, il a confiance en lui, et lui va aller faire un roman de Renard, dit-il dans un premier temps, c'est-à-dire un ensemble de décors pour les salons des dirigeants dans le nouveau siège qu'est du Point du Jour à
Boulogne.
Oui,
au début des années 70, le siège de Renault déménage. Claude Renard y voit une formidable opportunité de faire appel à nouveau aux artistes pour habiter cette architecture. Donc on a Julio Lepard qui va faire une fresque dans la cafétéria, on a Soto qui va faire un ensemble dans le hall, on a Takis, Armand, tous ces artistes vont faire des œuvres intégrées dans l'architecture et donc Jean Dubuffet qui, dans son cycle de Lourloupe, qu'il avait commencé en 1962, va concevoir plusieurs tableaux de ce qu'il va appeler d'abord le roman de Renard, en clin d'œil à Claude Renard, et ensuite qui va devenir le roman burlesque.
Et puis alors, le projet à l'intérieur va se doubler d'un projet à l'extérieur qui s'appelle le Salon d'été. Alors qu'est-ce que c'est le Salon d'été? Dans un premier temps, hein, on en racontera les aventures tout à l'heure.
Dans son premier temps, c'est un projet formidable pour l'artiste et pour Renault. C'est une sculpture monumentale de près de 2000 m2, habitable, qui doit venir prendre place sur le parvis du siège de l'entreprise.
Pierre Dreyfus, d'abord fait des remarques. Il trouve que c'est un peu austère, un peu froid. Alors Dubuffet, qui d'habitude n'est pas soumis comme ça, dit oui, monsieur le président, je fais comme vous voulez. Et de la maquette, on passe à la construction. Et la construction est à demi achevée quand Pierre Dreyfus est appelé à d'autres responsabilités et que le pouvoir giscardien nomme comme président de Renault Bernard Vernier Palies, dont vous allez entendre au ton de sa voix qui ne doit pas être passionné par l'art contemporain.
Les 9 premiers mois qui viennent de s'écouler ont été dans l'ensemble faste à la fois pour l'industrie automobile française et pour notre entreprise. Faste sur le marché français qui a été en nette hausse par rapport à l'an dernier et sur les marchés étrangers où nous allons cette année battre tous nos records d'exportation grâce à la qualité de nos gammes et à la puissance de nos réseaux.
Je vous raccompagne, monsieur le président.
Ça roule à combien, votre engin ?
165 chrono.
Et ça, ça sert à quoi ?
Dégivrage de la vitre arrière.
Et ça ?
Ah, ça, c'est la commande des phares à iode.
Hélène, il a des phares à iode. Hélène, les grandes eaux, on se croirait à Versailles. Lave glace, 4 jets, essuie-glace. 2 vitesses, la voiture est mieux que la nôtre. Dites donc, au fait, c'est quoi votre voiture ?
C'est une Renault 16 TS.
Elle vous attend chez votre concessionnaire ou agent Renault.
Oui, alors Bernard Verlier-Palies, il est fier d'un certain nombre de ses domaines, de ses modèles. Peu à peu, la période faste va cependant s'effacer. Et nous racontons à cet instant précis, en compagnie d'Anne-Cécile Sanchez, qui a publié dans L'Œil en février un article sur la collection Renault, qui publie dans le numéro du 1er mars du Journal des Arts la suite de cet article. Nous allons raconter les mésaventures que va connaître le salon d'été sous le mandat de Bernard Verlier-Palies. Un livre a été consacré à cet effet, à cette affaire, le sac du palais du salon d'été.
Oui, c'est sûr que Bernard Vernier-Palies n'est pas aussi passionné par l'art contemporain et n'a pas le même engagement dans le mécénat que son prédécesseur Pierre Dreyfus. Donc il arrive à la tête, à la présidence de Renault à la fin de l'année 1975. C'est aussi un contexte économique très différent. C'est ce qu'on va appeler la fin des Trente Glorieuses. Finalement, il y a eu le premier choc pétrolier. Il y a des tensions dans l'entreprise avec les syndicats. Il y a, on est dans une période prospère. On rentre dans une période plus difficile. L'art n'est plus une priorité. Et effectivement, Renault va se désengager de ce contrat qu'il avait passé avec Dubuffet.
Dans un premier temps, on dit le sol est meuble. La construction à moitié achevée est interrompue. Jean Dubuffet porte l'affaire en justice. Premier jugement défavorable pour lui. Premier appel défavorable pour lui. Et alors en septembre 1977, Bernard Vernier-Palies va faire procéder à l'ensevelissement, je crois qu'on peut employer ce mot, du salon d'été que défend mordicus son créateur Dubuffet.
Les dirigeants de la régie ont eu une idée très étonnante et particulièrement odieuse. C'est d'enterrer le monument. Et ainsi, dernièrement, profitant des vacances du personnel pendant le mois d'août, ils ont fait recouvrir la totalité du monument d'une vaste chape de béton, elle-même recouverte de gazon. S'il se trouve parmi ceux qui regardent cette émission des personnes désireuses de s'associer à la protestation contre cet extraordinaire acte de vandalisme, elles sont priées de s'adresser au groupement de soutien pour l'achèvement du salon d'été, 11 rue Saint-Médard, à Paris 5e.
J'en donnerai l'adresse, mais d'abord l'avocat, maître Kiegemann de Jean Dubuffet.
Vous savez, c'est très rare de détruire une œuvre d'art. Ça n'est pas arrivé depuis des dizaines d'années, ça rappelle toujours des souvenirs extrêmement fâcheux, c'est un crime contre l'esprit, il ne faut pas dramatiser, mais enfin c'est cela. Et c'est d'autant plus étonnant que je crois que depuis la Tour Eiffel, on n'a pas construit à Paris un ensemble monumental qui n'est pas une fonction architecturale déterminée comme en a une Beaubourg, par exemple.
Je redonne l'adresse du comité de soutien parce que il a reçu beaucoup de courriers. C'était 11 rue Saint-Médard dans le 5e arrondissement. C'est quelque chose qui ressemble quelques années après à l'affaire de la Cinémathèque quand les pouvoirs publics avaient voulu démettre Henri Langlois de la direction de l'établissement avec une conjonction de soutien dans le monde artistique, même s'il appréciait modérément Dubuffet, dans le monde littéraire, Claude Simon, futur prix Nobel, et dans le monde politique, Roland Leroy, directeur de l'Humanité qui vient de mourir, a pris une part importante à ce combat.
Oui, c'est un scandale retentissant parce que d'abord Dubuffet va le porter avec toute l'énergie qui est la sienne. Et c'était un peu son œuvre finale. Donc il se sent bafoué dans son honneur. Renaud l'a maltraité. Il n'y a pas eu vraiment d'échange. Il a écrit une longue lettre à Vernier Payez en disant qu'il allait tout mettre en œuvre pour que cette œuvre voie le jour. Et que si ce n'était pas le cas, il y verrait une atteinte intolérable à ses droits de créateur et qu'il mettrait tout en œuvre pour entamer des recours.
Et c'est ce qu'il a fait. Et il va finir par gagner au bout de beaucoup d'années.
Et c'est aussi, de ce point de vue-là, une affaire importante parce que ce procès, et qui va se conclure par le fait que Dubuffet ait gain de cause et qu'il sera donc fondé à construire, à finir cette œuvre à laquelle Renaud avait voulu renoncer en 1975. Il va renoncer à son droit à construire, mais ce procès, il va contribuer en revanche à donner une définition de la notion même d'œuvre d'art et il va préciser aussi le contenu du droit moral de l'artiste en cas de construction monumentale. C'est vraiment un procès qui fait date.
Le triomphe, il ne va pas le goûter parce qu'il n'a plus la force de monter sur un escabeau et il ne va pas reprendre les travaux. Et il dit « Je suis près d'aimer le salon d'été non construit ». Comme ça, il échappe aux intempéries. Et il a laissé un certain nombre d'œuvres, pas nécessairement mineures, qui racontent cette affaire. Alors, il y a un tableau qui s'intitule « Le président Vernier et Paliès signe devant le corps dictatorial l'ordre d'ôter le salon de l'été du champ de son regard ». Ou bien, l'architecte Pierre Vigneron présente au président Vernier et Paliès le plan de l'enterrement du salon d'été. Et la Fiat de Giovanni Agnelli offre à Dubuffet la possibilité de monter un spectacle en Italie. Et il dit « C'est quand même mieux l'Italie des Médicis que la France de Renaud ». Ainsi s'achève cette deuxième phase et va commencer la troisième.
Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Une automobile, encore une autre automobile. Une automobile, toujours une autre automobile. Des automobiles, des automobiles, des automobiles partout. Partout. Partout, partout, partout.
Donc une autre histoire de Renaud, sa collection d'art, le destin de la collection d'art. Parce que Claude Renard, le fondateur, qui a permis qu'un certain nombre d'objets produits chez Renaud soient intégrés dans un ensemble dont la régie disait aux artistes « ce n'est pas vendable », mais il est embarrassé par l'affaire Dubuffet.
Il est embarrassé. D'ailleurs, en 1976, Claude Renard, pour poursuivre ses collaborations avec les artistes, mais prendre du champ par rapport à l'entreprise et à l'affaire Dubuffet, il décide donc de sortir du périmètre de l'entreprise en créant une association qui s'appellera Incitation à la création. C'est sa femme Micheline Renard qui en est directrice. L'association reste liée à Renaud par un contrat et ils font des expositions à l'abbaye de Sénanque, plus tard à l'abbaye de Montmajour.
Oui, mais à la tête de Renaud, la situation devient plus difficile au milieu des années 1980. Le patron Georges Bess a pour credo « un sou est un sou ».
Oui, c'est la crise chez Renault. En 1985, ils vont renoncer à financer l'association Incitation à la création. Et puis, surtout, ils vont inviter des artistes à reprendre leurs œuvres. Ils n'ont plus envie de stocker ces œuvres, certaines monumentales, dans des caisses qui sont dans leurs locaux. Et donc, ils leur proposent de reprendre gracieusement leurs œuvres. Et dans le même temps, leur propose de les donner à cette association à la création, créée par Claude Renard. Et c'est donc ainsi, près de 200 œuvres, une cinquantaine d'artistes, pas des moindres, Alechinsky, Baldessari, Martin Barré, Bernard Fries, Honegger, parmi tant d'autres, Tapiès, Soto, qui vont faire des lettres de donation de leurs œuvres à l'association.
Anne-Cécile Sanchez, quand Renaud lâche complètement l'association?
Eh bien, l'association, là, va chercher un nouveau soutien financier. Alors, Claude Renard va démarcher des institutions culturelles, des collectivités locales. Puis, face à la lenteur administrative, eh bien, finalement, celui qui va être réactif, c'est Jean Hamon. C'est un promoteur et un amateur d'art. Il va devenir président de l'association en 1988.
L'article de l'Œil que vous avez publié en février, dit « Cette association ne lui connaît pas beaucoup d'activités depuis une vingtaine d'années. Elle est soupçonnée d'essayer de vendre sous le manteau certaines des œuvres ayant appartenu à Renaud. » Je laisse le suspense. Je ne vais pas avoir un procès de 9 ans comme Jean Dubuffet, mais j'incite nos auditeurs à lire la suite du papier de l'œil dans le Journal des Arts de ce 1er mars où vous allez beaucoup plus loin dans cette enquête. On sait que Jean Hamon, c'est celui qui a porté beaucoup de rêves. Un musée à Issy-les-Moulineaux, un jardin de sculpture à Jouy-en-Josas, et aucun de ses rêves ne s'est réalisé. Alors ça, ce sont les œuvres passées par l'association. Enfin, on trace leur destin en pointillé. Et puis, les autres.
La collection maintenue, on parle quand même de 300 œuvres, au minimum, qui sont toujours dans la collection Renaud, qui est une très belle collection, qui continue à vivre. Louis Schweitzer a fait appel...
Alors ça, c'est le PDG des années 90.
Tout à fait. A fait appel à une historienne de l'art pour prendre la direction de cette collection, pour lui redonner vie, pour qu'elle soit montrée. Et donc, il y a d'ailleurs en ce moment une exposition, une très belle exposition à la Fondation Clément, en Martinique, qui présente une sélection d'œuvres de la collection Renaud, où on peut voir entre autres une œuvre absolument sublime de Tinguely, qui est son Requiem pour une feuille morte, sublime et monumentale.
Requiem pour une feuille morte. Petite réflexion finale, alors il y a des présidents amateurs d'art, Dreyfus, on n'a pas cité le nom d'Anon, on a cité le nom de Schweitzer, il y en a d'autres qui le sont moins, Vernier Paliez, Georges Bess. Carlos Ghosn, lui, il a une conception du mécénat autre. Enfin, je veux dire que ce qui l'attire, c'est plutôt le patrimoine, non?
Vous faites allusion à...
Non, mais aux initiatives de restauration.
Tout à fait.
D'un salon de Versailles, c'est moins le contemporain.
Oui, oui, le groupe Renaud accompagne le château de Versailles dans la restauration patrimoniale majeure du Salon de la Paix.
Et on n'en dira pas plus, là, non plus. On renverra à la presse. Oui, cependant, c'est quand même un modèle, Renaud, pour d'autres fondations d'entreprises plus axées sur le contemporain.
C'était une pionnière, surtout. Effectivement, depuis, il y a eu la loi sur le mécénat d'entreprise en 1987, qui a incité les entreprises à développer l'achat d'œuvres d'art. Et beaucoup d'entreprises se sont lancées dans des collections.
Merci donc au modèle Claude Renard, à son épouse qui a consacré un livre chez Flammarion à la collection Renaud. Puis je rappelle l'œil, le Journal des Arts. Cette émission était préparée par Eline Canegulesco, Frédéric Martin, Franck Olivard, Renan Mahé à la technique, Lise Combe à la réalisation. Et chez vous, Daniel Fievet dans La Tête au Carré.
Bonjour Jean, chez nous, nous allons partir en bord de mer. On va s'intéresser à l'évolution du littoral, comment les côtes s'érodent et parfois la terre s'étend.